19h sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, la suite des débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec vous, Hélène Zénali. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
La crise est-elle derrière nous? La baisse du chômage s'accentue en tout cas, moins 5,5% au troisième trimestre.
En revanche, trouver du personnel dans les hôpitaux est de plus en plus difficile. Et qui dit manque de personnel, dit fermeture de lits, situation compliqué, reconnaît Olivier Véran. Voiture calcinée tire contre des policiers à Alençon dans l'Orne. Des renforts conséquents sont prévus pour la nuit prochaine. Et puis les Français ont-ils perdu leurs habitudes d'aller dans les lieux de culture, notamment au théâtre? Cet été, oui, mais doucement, mais sûrement, ils y retournent.
Et c'est tant mieux. Un mot de la tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Encore beaucoup de soleil ce jeudi avant l'arrivée de la pluie. La météo complète, c'est à la fin du journal.
Europe 1. Hélène, on commence par une bonne nouvelle, une excellente nouvelle économique. La baisse du chômage continue au troisième trimestre.
Oui, mais aussi sur les 12 derniers mois, la reprise post-Covid se confirme donc, Maud Descamps.
Oui, et c'est sur la catégorie A, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé, que la baisse est la plus significative. Moins 5,8% au dernier trimestre écoulé et moins 10% sur un an, soit le niveau d'avant-crise. Cette baisse concerne toutes les régions de France. Alors parmi ceux qui en profitent le plus, eh bien, il y a les jeunes de moins de 25 ans, moins 14,8% sur un an. Et si on regarde ces chiffres d'un peu plus près, eh bien, on voit que ce sont les jeunes femmes qui en profitent davantage avec une baisse de plus de 15%. Ces chiffres s'expliquent par la très forte reprise économique post-Covid. De nombreuses entreprises embauchent déjà depuis plusieurs mois. Et ce n'est pas terminé hein, puisque les besoins de main-d'œuvre sont nombreux dans les secteurs du bâtiment, de la restauration mais aussi de l'industrie.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Autre bonne nouvelle cette fois pour tous ceux qui partent en vacances en train le week-end prochain. Les syndicats lèvent l'appel à la grève des conducteurs sur les TGV Atlantique.
Un lit d'hôpital sur 5 fermé à cause du manque de personnel, le chiffre a de quoi interroger alors qu'on craint une nouvelle vague de contamination au Covid.
Oui, 20% des lits fermés dans les grands hôpitaux, c'est en tout cas le résultat de l'enquête dirigée par Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Le ministre de la Santé Olivier Véran reconnaît lui-même une situation compliquée. Les précisions de notre spécialiste santé Afsaneh Sabouy.
Alors ce chiffre de 20% de lits fermés et la méthodologie par laquelle il a été obtenu fait un peu débat, mais tout le monde est d'accord sur un point, les hôpitaux ont vraiment pris de plein fouet les vagues de Covid. Vincent Roch de la Fédération hospitalière de France.
Les soignants sont fatigués, il y a une demande de sens, une demande de perspective. La situation qui nous remonte du terrain, c'est une situation plus difficile que les années précédentes. Un absentéisme de 10% à l'hôpital, le taux moyen de vacances de poste est de 4,5% pour les infirmiers, de 2,5% pour les aides-soignants.
Dans un entretien à Libération, le ministre de la Santé, Olivier Véran, reconnaît que la situation est, je cite, « compliquée ». Il précise même qu'il a demandé à Pôle emploi de recevoir les soignants qui s'inscrivent en vue d'une reconversion professionnelle pour essayer de les rattraper in extremis. Une étude est par ailleurs en cours pour chiffrer les difficultés de recrutement sur l'ensemble du territoire.
Afsaneh Sabouy, l'épidémie de bronchiolite continue à gagner du terrain. 11 des 13 régions en métropole sont déjà en phase épidémique. Les deux dernières, Bretagne et Corse, devraient bientôt les rejoindre.
13 voitures incendiées, des policiers visés par des tirs de mortiers d'artifice. La nuit dernière a été pour le moins agitée dans le quartier de Persaigne à Alençon, dans l'Orne.
Oui, les pompiers venus éteindre les incendies ont aussi été pris pour cible. Aucun blessé à déplorer. Ces violences auraient éclaté après l'arrestation de deux habitants du quartier pour trafic de drogue, Wilfried de Villers.
Oui, l'interpellation hier après-midi d'un adolescent de 16 ans, suspecté de vendre de la drogue et de la personne qui l'accompagnait. Joachim Pueyo, le maire PS d'Alençon, voit clairement un lien entre ces arrestations et les incidents de la nuit.
Quand il y a des interpellations, souvent il y a des réactions de personnes, des individus qui veulent en démordre avec la police. Donc moi j'y vois quand même un lien, parce qu'effectivement on dérange ceux qui sont à l'origine du trafic de stupéfiants, qui est quand même un mal endémique de notre territoire.
Une version soutenue également par la préfète de l'Orne, Françoise Tahéry. Pour sa part, le procureur, lui, ne confirme pas, pour l'instant, un lien établi entre ces interpellations et les faits. Les enquêteurs n'écartent pas plus une piste qu'une autre, a-t-il soutenu tout à l'heure. Une enquête a été ouverte pour destruction et violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Et sur place, Wilfried, le calme est revenu.
Le calme, oui, mais le quartier portait encore aujourd'hui les marques de cette nuit de violence. Des carcasses de voitures calcinées, encore fumantes, évacuées en milieu de matinée. Et ce qui inquiète, c'est le scénario d'une nouvelle nuit de violence. Ce soir, selon la préfète de l'Orne, des renforts ont été déployés sur place. Les membres d'une brigade de CRS sont arrivés en fin d'après-midi dans le quartier.
Wilfried De Villers, 7 policiers convoqués devant un conseil de discipline par le directeur de la police nationale. Ils sont liés aux défaillances qui ont précédé le féminicide de Mérignac, c'était en mai dernier.
La commission indépendante sur l'inceste rendait son premier avis aujourd'hui, l'idée étant bien sûr de protéger davantage les enfants dès qu'il y a le moindre soupçon.
Oui, et la commission a été saisie par des centaines de mères en détresse, impuissantes face à la révélation par leur enfant d'agressions sexuelles commises par le père, Virginie Riva.
Oui, souvent, ces mères se retrouvent accusées à tort par des experts lors de la procédure judiciaire d'aliénation parentale, en gros d'utiliser leur enfant pour accuser leur conjoint, un concept qui pour la commission inceste n'a aucune base scientifique. Les mères peuvent même se voir dans la foulée condamnées pour non-représentation d'enfants ou se voient même retirer la garde et se retrouvent face à un dilemme, respecter la décision de justice et confier leur enfant à leur agresseur ou ne pas le faire et le protéger. Il faut que tout cela change pour Ernestine René, membre de la commission inceste.
Dans les mentalités de l'ensemble des professionnels, il y a encore trop souvent l'idée que puisqu'elles se séparent, souvent dans un contexte de violence d'ailleurs, de violence conjugale, la mère manipule l'enfant pour que l'enfant dise qu'il a été victime de violence sexuelle.
Aujourd'hui, le juge peut décider, en attendant la fin de la procédure, de suspendre l'autorité parentale, les droits de visite et d'hébergement du père. C'est la recommandation de la commission. La commission qui demande également de suspendre les poursuites pénales pour non-représentation d'enfants contre un parent lorsque l'enquête est en cours. Enfin, elle recommande que la loi prévoie désormais le retrait systématique de l'autorité parentale dès lors qu'il y a condamnation d'un parent pour violence sexuelle incestueuse sur son enfant.
Virginie Riva, ni monsieur ni madame, les États-Unis viennent de délivrer le premier passeport avec le genre X. C'était pour une personne qui ne se reconnaît ni dans le masculin ni dans le féminin. Et puis toujours aux États-Unis, on apprend à l'instant que des poursuites pénales ne sont pas exclues contre l'acteur Alec Baldwin. Il avait tué par accident la directrice de la photographie sur un tournage la semaine dernière. C'est lui qui a actionné l'arme, dit la procureure.
Allez, une petite pause et dans un instant, des trésors rendus au Bénin, cérémonie symbolique. Et le monde de la culture qui reprend des couleurs, notamment les théâtres. On en parle dans un instant dans Punchline, à tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans le journal de 19h, on est toujours avec Hélène Zélani. Hélène, Emmanuel Macron était au musée du Quai Branly pour une cérémonie hautement symbolique. Il s'agissait d'officialiser la restitution au Bénin de trésors royaux.
Et oui, 26 œuvres jusqu'ici exposées dans ce musée parisien. Une cérémonie à laquelle vous assistiez pour Europe 1, Jacques Serret.
Oui, le chef de l'État est venu voir une dernière fois ses œuvres, la statue mi-homme mi-requin, une autre mi-homme mi-lion ou encore un trône royal. 26 œuvres du 19e siècle récupérées par la France lors de la colonisation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut faire de leur restitution un geste fort et dans ses mots se pose en défenseur de l'universalisme.
Et je veux ici, parce que j'écoutais les débats que nous pouvons avoir parfois chez nous, y compris ces derniers jours. Le but de tout cela ne serait pas de renationaliser de manière parfaite les patrimoines de chacun. Ce serait une folie. Mais c'est de permettre à chacun de retrouver, je crois, ce à quoi la France, par son histoire, a aussi contribué et qu'elle doit maintenant partager, un rapport à l'universel et à l'universalisme. Non pas un rétrécissement, mais la possibilité offerte que l'universalisme soit accessible partout. C'est cela le combat que nous devons mener.
Un combat à mener, message à ses adversaires pour la présidentielle. Le chef de l'État qui a indiqué son intention de proposer une loi pour faciliter ce type de démarche et rendre possible d'autres restitutions. Il recevra dans 2 semaines le président du Bénin pour le retour au pays de ses œuvres.
Jacques Serret en direct du musée du Quai Branly pour Europe 1, des œuvres qui vont retourner au Bénin le 9 novembre prochain. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron déjeunait avec le président polonais à l'Élysée. Quasiment au même moment, on apprenait la lourde condamnation de la Pologne par l'Union européenne, une astreinte d'1 million d'euros par jour, tant qu'existera la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, une chambre qui peut poursuivre les juges.
La pandémie, le confinement, nous aurait-il dissuadé de retourner dans les lieux de culture, cinéma, théâtre ou musée?
Oui, c'est ce que semble montrer ce sondage commandé par le ministère de la Culture fin août. 40% des Français boudraient les lieux de culture. Certes, les professionnels du secteur restent inquiets, mais en réalité, la rentrée s'est plutôt bien passée, surtout pour les théâtres. Marie Jiquel.
directeur de deux théâtres privés à Paris, Sébastien Azopardi, se réjouit. Tous ses spectacles ont affiché complet hier soir.
Au mois de septembre, avec nos salles vides, on était tous logés à la même enseigne, à devoir remplir nos salles depuis zéro. C'est sûr qu'il a fallu du temps pour relancer la machine. Aujourd'hui, ça y est, les réservations ont repris un petit peu d'avance.
Le pass sanitaire ne semble plus être un frein pour les spectateurs.
Le problème, il s'est posé au mois de juillet, quand il a fallu du jour au lendemain intégrer le pass sanitaire, mais c'est plus vrai aujourd'hui.
Les salles se remplissent à nouveau, mais progressivement, il faut reconquérir des Français plus casaniers. C'est ce que constate Laurence de Magalès, la directrice du théâtre Le Montfort à Paris.
Il faut que les gens reprennent le rythme de sortir, on s'est habitué à autre chose. Nos abonnés qui faisaient 6-7 spectacles par semaine, effectivement, ils en font plus que 4 maintenant, enfin, c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs.
L'ultime test de cette année 2021 encore perturbé, les fêtes de fin d'année, une période généralement fructueuse pour les salles de spectacle.
Et pour un nouveau point de la situation, une étude est prévue en décembre prochain.
Les spectacles encore, Hélène, les équipes de foot de Nice et Marseille se retrouvent ce soir sur terrain neutre et à huis clos. Au stade de l'Aube à Troyes.
Oui, ils vont rejouer le match qui avait dégénéré en bagarre générale il y a 2 mois. Pas de sentiment de revanche pour Christophe Galtier, l'entraîneur des Niçois, qui menait 1-0 avant l'interruption de la rencontre.
Il y a 3 points en jeu. On en a perdu un, de par la décision de la commission de discipline. C'est comme cela, mais il y a 3 points en jeu. Non, il n'y a pas un sentiment de revanche. Et je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation ici à Nice. Donc non, il n'y a pas un sentiment de revanche. Il y a simplement 3 points en jeu et qui seront évidemment très importants parce que si nous avions le bonheur de l'emporter, on serait dans une position très agréable et très confortable.
L'entraîneur de Nice au micro de Cédric Chasseur. Nice-Marseille, coup d'envoi à 21h et c'est à suivre en fil rouge sur Europe.